Chapitre 42. Fitch courait dans le couloir faiblement éclairé. Selon Rollet, c'était très important. Les pieds nus de Morlaix qui l'accompagnaient produisaient un son mat sur le parquet. À présent, Fitch trouvait ce bruit bizarre. Après avoir passé sa vie sans chaussures, il avait eu du mal à s'habituer à porter des bottes dont le vacarme l'annonçait à des lieues à la ronde. Maintenant, c'était entendre des pieds nus marteler le sol qui le déconcertait. Puis encore, cela lui rappelait l'époque où il était un minable garçon de cuisine, une partie de sa vie qu'il voulait tout faire pour oublier. Être un messager lui semblait encore un rêve éveillé. À travers les fenêtres ouvertes, le jeune Haken entendait les lointains échos de la musique du banquet. La harpiste chantait en s'accompagnant avec son instrument. Il adorait le timbre très pur de sa voix quand elle interprétait ainsi un solo dépouillé.
« Tu as une idée de ce qui se passe ?» demanda Morlaix.
« Non, mais je doute qu'il s'agisse d'un message à livrer, surtout un soir de banquet.
J'espère que ça ne nous prendra pas trop longtemps. »
Fitch comprit ce que voulait dire son ami. Morlaix ayant récupéré une bouteille de rhum presque pleine, ils avaient décidé de se saouler ensemble. Cerise sur le gâteau, une des filles de la buanderie avait accepté de boire avec eux. Morlaix avait suggéré qu'il la laisse s'enivrer avant eux, histoire qu'elle soit disposée à la gentillesse. Fitch en salivait d'avance. De plus, il avait un urgent besoin d'oublier sa conversation avec Beata, et le rhum l'y aiderait. Le premier bureau était vide et silencieux. Dès qu'ils entrèrent, Dalton Campbell sortit de son fief pour les accueillir.
« Vous voilà enfin, parfait !»«
Que pouvons-nous faire pour vous, messire Campbell ?» demanda Fitch.
« Venez dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. »
Les deux jeunes Haken suivirent l'assistant dans la pièce où une douce brise pénétrait par les fenêtres ouvertes. Sous la caresse, les étendards ondulaient doucement.
« Nous avons des ennuis, » soupira messire Campbell, « au sujet de la mort de Claudine Winthrop. »«
Quel genre d'ennui ?» voulut savoir Fitch. « Et que devons-nous faire pour arranger ça ?»
L'assistant se passa une main sur le menton.
« On vous a vu. »«
Que voulez-vous dire ?»
s'écria Fitch, soudain glacé de terreur.
« Vous avez entendu une diligence s'arrêter, n'est-ce pas ? Après, vous avez couru vers une mare pour vous débarrasser du sang. »«
C'est ça, messire. Et alors ?»
Dalton Campbell soupira de nouveau, puis pianota sur son bureau pendant qu'il cherchait ses mots.
« Le cocher de la diligence qui a découvert le corps est aussitôt reparti en ville pour prévenir la garde. »«
Oui, vous nous l'avez déjà dit, messire Campbell, » fit Morlaix.
« Mais je viens d'apprendre qu'il avait laissé son assistant sur les lieux. Et ce type a suivi vos traces dans le champ de blé jusqu'à la mare. »«
Malédiction !» souffla Fitch. « Il nous a vus nous nettoyer ?»«
Vous deux, oui. » « En tout cas, vous êtes les seuls dont il ait cité le nom. « Fitch et Morlaix, » a-t-il dit, « deux garçons de cuisine du domaine. »
Le cœur de Fitch cognait follement dans sa poitrine. Il tenta de réfléchir, mais la panique lui embrouillait les idées. Que l'exécution de Claudine ait été justifiée ou non, Morlaix et lui finiraient pendus.
« Mais pourquoi cet homme n'a-t-il pas parlé plus tôt ?»«
Pardon ? Eh bien, parce qu'il était sous le choc, et qu'il avait peur... » Mais ne perdons pas notre temps à pleurer sur le lait renversé. De toute façon, nous n'y pouvons plus rien. »
L'assistant ouvrit un tiroir de son bureau.
« Je suis accablé par cette affaire. Vous m'avez fidèlement servi, et Anderit vous doit beaucoup, mais le mal est fait. On vous a vu. »
Campbell sortit une bourse pansue du tiroir et la posa sur le bureau.
« Que va-t-il nous arriver ?»
demanda Morlaix. Il était plus pâle qu'à mort, et Fitch comprenait très bien sa réaction.
À l'idée de finir sur la potence, ses genoux se dérobaient et il craignait de se faire dessus. Il faillit crier quand il se souvint de la description de Franca. On l'avait pendue par le cou, puis on avait allumé un feu pour l'achever, mais elle avait eu sa magie pour la sauver. Morlaix et lui devraient subir le supplice jusqu'à son terme.
Dalton Campbell poussa la bourse vers les deux Haken.
« Je veux que vous preniez ça. »
Fitch dut se concentrer pour comprendre le sens de ces quelques mots.
« Qu'est-ce que c'est ?»« Des pièces d'argent et quelques-unes en or. »« Les gars, je me sens terriblement coupable. Vous m'avez aidé et vous vous êtes montré digne de ma confiance. Mais quelqu'un vous a vu et vous risquez une condamnation à mort. »«
Mais vous pouvez dire que... »
commença Fitch.
« Je ne peux rien dire du tout. »
coupa l'assistant.
Mon devoir est de protéger le ministre, au nom de l'avenir du pays. Le pontife est très malade, et Bertrand Chanebourg sera bientôt appelé à le remplacer. Je ne peux pas laisser le chaos ravager Anderit à cause de Claudine Winthrop. Vous êtes comme des soldats, pendant une guerre. Sur le champ de bataille, on perd des hommes valeureux. De plus, en ce moment, les citoyens sont bouleversés et personne ne m'écouterait. Une foule déchaînée s'emparerait de vous et... Fitch crut qu'il allait s'évanouir. Nous mettrait à mort, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Quoi ? S'écria Campbell, comme si cette remarque venait de le tirer d'une profonde réflexion.
Non, ça n'arrivera pas. Il poussa de nouveau la bourse. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Prenez-le et fuyez.
Vous ne comprenez pas ? Si vous restez ici, vous serez mort avant le prochain coucher de soleil.
Mais où irons-nous ?
Demanda Morley. Très loin d'ici. Quelque part où on ne vous retrouvera jamais.
Mais si vous expliquiez un peu les choses, les gens sauraient que nous avons châtié une traîtresse et...
Et violé Beata ? L'avenir d'Anderit ne vous forçait pas à faire ça.
Quoi ?
S'écria Fitch.
Je jure que je ne l'aurais jamais touché, messire. Je vous en prie, croyez-moi.
Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Les gens qui vous traquent pensent que vous êtes coupable, et ils ne me laisseront pas le temps de leur prouver le contraire. Ils ne m'écouteront pas. Pour eux, les assassins de Claudine sont aussi les violeurs de Beata, et ils n'en démordront jamais. Que ce soit vrai ou non ne compte pas, et l'homme qui vous a vu est un Andérien.
On nous poursuit déjà ?
Bredouilla Morley.
Des gens nous cherchent ?
Oui. Et si vous ne filez pas, on vous pendra pour les deux crimes. Votre seule chance est de fuir au plus vite. Pour vous récompenser d'avoir été loyaux et de vous être battus pour sauver la civilisation andérienne, j'ai tenu à vous prévenir. Et je vous offre toutes mes économies pour vous permettre de partir.
Vos économies ?
Répéta Fitch.
Mais sire, nous ne pouvons pas les prendre. Vous avez une épouse et...
J'insiste. Et si c'est nécessaire, je vous l'ordonnerai. Comment pourrais-je dormir en paix si je n'ai pas le sentiment d'avoir fait au moins ça pour vous aider ? J'ai toujours eu à cœur de ne pas laisser tomber mes hommes. Et je vous dois tellement. Campbell désigna la bourse. Prenez cet argent, partagez-le, et utilisez-le pour partir loin d'ici. Il vous aidera à recommencer une nouvelle vie.
Une nouvelle vie ?
Exactement. Vous pourrez même vous acheter des épées.
Des épées ?
Répéta Morley stupéfait. Bien sûr. Il y a assez pour vous en payer 10 chacun. Dans un autre pays, on se fichera que vous soyez des Haken et vous vivrez comme des hommes libres. Changez de travail, d'habitude, de rêve. Avec autant d'argent, vous pourrez même courtiser des femmes comme il faut.
Mais nous ne sommes jamais sortis de Fairfield,
gémit Morley. Campbell posa les mains à plat sur son bureau et se pencha vers les deux Haken. Si vous restez, vous serez pendu. Les gardes connaissent vos noms, et ils vous cherchent déjà. J'implore le Créateur qu'il ne fasse pas irruption dans ce bureau. Si vous voulez vivre, prenez l'argent et filez. Offrez-vous une nouvelle existence, les gars. Fitch regarda nerveusement derrière lui. Il ne vit rien et n'entendit pas de bruit, mais leur poursuivant pouvait arriver d'un moment à l'autre. S'il ne savait pas où aller, suivre le conseil de Messire Campbell lui semblait la seule solution. Il ramassa la bourse.
« Messire, dit-il, vous êtes l'homme le plus formidable que j'ai connu. J'aurais aimé travailler pour vous jusqu'à la fin de mes jours. Merci de nous avoir prévenus et bien, pour vos économies. »
Dalton Campbell tendit la main et Fitch la serra. C'était la première fois qu'il échangeait un tel salut avec un Andérien. Et il trouva ça agréable, comme s'il avait enfin le droit de se sentir un homme digne de ce nom. Messire Campbell serra aussi la main de Morley. « Bonne chance à vous deux. À votre place, je me procurerai des chevaux, mais ne les volez pas surtout. Vous mettriez vos poursuivants sur votre piste. Achetez-les et comportez-vous en toutes circonstances comme si de rien n'était. Je sais que c'est difficile, mais sinon vous éveilleriez des soupçons. Ne gaspillez pas votre argent avec des putains ou pour vous saouler, parce qu'il vous filera entre les doigts. » Si vous faites des bêtises, on vous capturera et vous ne vivrez pas assez longtemps pour mourir des maladies que vous auront refilées les filles de joie. Si vous êtes économe, cet argent vous permettra de survivre jusqu'à ce que vous ayez trouvé un endroit où vous installer.
Fitch serra de nouveau la main de son bienfaiteur.
« Merci de vos conseils, messire Campbell. Nous les suivrons à la lettre. Pour commencer, nous allons acheter des chevaux et partir au triple galop. Ne vous en faites pas pour nous, surtout. Nous avons déjà vécu dans les rues et nous savons échapper à des andériens qui veulent nous faire du mal. »
Dalton Campbell eut un petit sourire.
« Pour ça, je vous fais confiance. Que le Créateur veille sur vous. »
Quand il retourna dans la salle à manger, Dalton trouva Teresa en grande conversation avec le ministre. Assise sur la chaise de Bertrand, sa femme riait et il l'accompagnait de bon cœur, ravi de s'attirer les grâces d'une si jolie femme. Hildemara, Stein et les marchands placés à l'autre bout de la table tenaient à voix basse un conciliabule qui paraissait passionnant. Dès qu'elle le vit, Teresa tendit un bras et prit la main de son mari.
« Te voilà enfin, mon chéri. Tu vas rester, j'espère. Bertrand, dites-lui qu'il travaille trop. Il doit prendre le temps de manger. »
« Elle a raison, Dalton. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'ardeur à la tâche. Sans vous, votre femme est perdue. J'ai essayé de la distraire, hélas. Mes histoires n'ont pas eu l'heure de l'intéresser. Elle s'est montrée très polie, mais elle tenait surtout à me répéter que vous êtes un homme hors du commun, comme si je ne le savais pas. »
Bertrand et Teresa implorèrent Dalton d'aller se rasseoir à sa place pour se restaurer. Pendant que sa douce épouse regagnait sa chaise, il la supplia du regard d'avoir patience quelques minutes de plus, puis il prit Hildemara par une épaule, fit de même avec Bertrand et leur parla à l'oreille.
« Les informations que je mentionnais ont confirmé mes soupçons. Comme je m'en doutais, les premiers rapports sur la mort de Claudine étaient exagérés. Elle a été victime de deux hommes, pas un de plus. »
Dalton tendit à son chef un message cacheté.
« Voici leur nom. »
Bertrand sourit comme un enfant à qui on donne des sucreries.
« Maintenant, veuillez m'écouter attentivement. J'étais sur leur piste, mais ils se sont enfuis après avoir volé une grosse somme d'argent dans la caisse des cuisines. Mais une chasse à l'homme a déjà commencé. »
Dalton plissa le front pour faire comprendre à ses interlocuteurs qu'il inventait une histoire abracadabrante pour une raison bien précise. Sans se poser de questions, le ministre et sa femme hochèrent simplement la tête.
« Demain, à l'heure qui vous plaira, vous pourrez rendre public les noms des coupables. Ces deux garçons de cuisine ont violé et tué Claudine Winthrop. Avant, ils avaient abusé d'une pauvre Haken qui travaille pour Inger, notre boucher. Ce soir, ils ont volé de l'argent et se sont enfuis. »
« La Haken en question confirmera cette histoire ?»
demanda Bertrand, inquiet qu'elle veuille disculper ses compatriotes et pointer un index accusateur sur sa poitrine.
« Après une épreuve pareille, la malheureuse n'a plus supporté de vivre à Fairfield. Nous ignorons où elle est allée, et elle ne reviendra probablement jamais. Dans le cas contraire, j'ai communiqué son nom aux gardes, qui l'intercepteront et me l'amèneront afin que je l'interroge. »
« Si elle ne risque pas d'innocenter les deux garçons, »
dit Hildemara peu amène,
« pourquoi leur laisser une nuit entière d'avance? C'est idiot. Le peuple rêve d'une exécution publique, et nous pouvons bien lui offrir ça. Rien ne satisfait plus les gens qu'un spectacle de ce type. »
« Nos concitoyens veulent connaître les coupables, et Bertrand va leur révéler leur identité. Tout le monde croira que les services du ministre ont élucidé l'affaire. » Et en fuyant avant d'être démasqués, les Haken auront en somme signé leurs aveux. Si nous avions procédé autrement, la mère inquisitrice en serait mêlée, et c'est un inconvénient que nous ne pouvons pas nous permettre. Une exécution serait inutile et dangereuse. Le peuple sera content que nous ayons trouvé les coupables, et ravi d'apprendre qu'ils sont très loin de Fairfield. C'est suffisant. Pourquoi prendre des risques alors que Bertrand n'est plus qu'à quelques pas du trône du pontife?
Hildemara ouvrit la bouche pour protester.
Dalton a raison,
dit son mari.
Sans doute,
souffla à contre-cœur sa femme.
J'annoncerai la grande nouvelle demain,
ajouta Bertrand.
Avec Edwin à mes côtés, s'il est assez rétabli. Bien joué, Dalton. Encore un coup de maître. Vous avez mérité une récompense pour cette manœuvre de génie.
J'ai prévu ça aussi, Bertrand. Ne vous inquiétez pas.
Pourquoi ne suis-je pas étonné ?
Lança le ministre avant d'éclater de rire. Si curieux que cela paraisse, sa femme l'imita. Alors qu'il marchait dans les couloirs avec Morlaix, Fitch dut essuyer les larmes qui lui brouillaient la vue. Les deux Haken avançaient aussi vite qu'il était possible sans courir. Dalton Campbell leur avait conseillé d'agir normalement, et ils savaient de quoi il parlait. Dès qu'ils apercevaient des gardes, les fugitifs bifurquaient sans hâte excessive dans un couloir latéral. De loin, Fitch était un messager parmi tant d'autres, et Morlaix ressemblait à des dizaines d'employés du domaine. Mais si des gardes tentaient de les interpeller, ils devraient courir. Par bonheur, le vacarme du banquet couvrirait celui de leurs pas sur le parquet. Fitch eut soudain une idée qui favoriserait leur fuite. Sans daigner l'expliquer à Morlaix, il le tira par la manche et le guida jusqu'à un escalier qui menait au sous-sol. Quand ils l'eurent descendu, Fitch trouva sans trop de difficulté la pièce qu'il cherchait. Ils entrèrent, s'assurèrent qu'elle était vide, allumèrent une lampe et refermèrent la porte.
« Fitch, tu deviens fou ? Pourquoi nous enfermer là-dedans ? Nous pourrions être déjà loin. » « Morlaix, ils cherchent qui, d'après toi ?
Nous ?
Non, essaie de te mettre à leur place. Ils traquent un messager et un garçon de cuisine. Je me trompe ?
Eh bien, tu as raison, je suppose, mais... »
C'est la salle où on garde les uniformes et beaucoup d'autres fournitures. J'y suis venu il n'y a pas longtemps pour qu'on me donne une tenue en attendant d'en avoir une sur mesure.
D'accord, mais que fichons-nous ici ?
Déshabille-toi. Pourquoi ? Tu es abruti ou quoi ? Ils cherchent un messager et un garçon de cuisine. Si tu portes une tenue comme la mienne, nous deviendrons deux messagers.
Oh, voilà une bonne idée.
Morlaix commença à se déshabiller. La lampe au poing, Fitch longea les étagères en quête d'un uniforme comme le sien. Quand il eut trouvé, il envoya un pantalon marron foncé à son ami.
« C'est ta taille ?»
Morlaix enfila le vêtement.
« Ouais, à peu près.
Maintenant, essaie cette chemise blanche. »
Morlaix passa la chemise, mais il ne parvint pas à la boutonner.
« Replie-la pendant que je t'en cherche une autre, »
dit Fitch.
« Pourquoi devrais-je m'embêter à la replier ?
Tu veux qu'on se fasse attraper ? Personne ne doit se douter que nous sommes venus ici. » Si nos poursuivants ignorent que tu as changé de tenue, ça augmentera nos chances.
« Oui, bien sûr !»
souffla Morlaix, penaud. Il enleva la chemise et entreprit maladroitement de la plier. Fitch lui entendit une autre, qui fit l'affaire, même si elle était un rien trop large. Très vite, il découvrit un pourpoint semblable au sien, mais de plusieurs tailles plus grand. Morlaix l'essaya, et il lui allait presque parfaitement.
« De quoi ai-je l'air ? »
demanda-t-il. Fitch leva sa lampe et émit un sifflement admiratif. Bien plus costaud que lui, son ami ainsi vêtu avait une allure quasiment aristocratique. Des habits suffisaient-ils donc à transformer un homme ? Une éventualité que le jeune Haken n'avait jamais vraiment envisagée.
« Mon vieux, dit-il, tu en jettes encore plus que Rollet. Sans blague ? »
lança Morlaix, rayonnant. Et il se rembrunit aussitôt.
« Et maintenant, fichons le camp d'ici.
Non, il te faut d'abord des bottes.
Les pieds nus, tu serais ridicule.
Tiens. Mets des chaussettes, sinon tu récolteras des ampoules. »
Morlaix obéit, puis il enfila les bottes que lui tendait son compagnon.
« La pointure convient ? » ?»«
On dirait, ouais. » »«
Emporte tes anciennes frusques, pour que personne ne sache que nous sommes venus. Le temps qu'on s'aperçoive qu'un uniforme a disparu, nous serons très loin d'ici. »
Des bruits de pas retentissant dans le couloir, Fitch souffla sa lampe. Pétrifiés, les deux Haken attendirent, trop terrifiés pour oser respirer. Ils étaient coincés, et plusieurs hommes approchaient. Des gardes, sans doute deux, et ils faisaient sûrement leur ronde, rien de plus. Fitch manqua pourtant s'évanouir. La seule idée de finir pendu par une foule déchaînée lui retournait les entrailles et il suait à grosses gouttes. La porte de la réserve s'ouvrit. Une silhouette se découpa sur le seuil, illuminée par la faible lumière qui brûlait dans le couloir. Il s'agissait bien d'un garde, à voir le fourreau qui pendait à sa hanche. Fitch et Morlaix étant au fond de la pièce, entre deux rangées d'étagères, le rectangle de lumière qui jaillissait de la porte vint seulement lécher la pointe de leurs bottes. Paralysés, ils ne bougèrent plus un cil. Le garde ne les vit pas, peut-être parce que ses yeux n'étaient pas accoutumés à la pénombre. Son inspection terminée, il referma la porte et repartit avec son camarade. Fitch les entendit ouvrir d'autres battants de plus en plus loin dans le couloir, puis le silence revint.
« Fitch !» souffla Morlaix. « Il faut que je pisse ou je vais exploser. On peut sortir d'ici ?»«
Je crois, oui. »
Ils sortirent et découvrirent avec une intense satisfaction que
que le couloir était désert.
Quand Morlaix se fut soulagé, ils coururent vers l'issue la plus proche, pas très loin de la brasserie. En chemin, ils jetèrent les vieilles frusques de Morlaix dans une poubelle. En passant, ils entendirent le vieux brasseur fredonner une chanson à boire. Morlaix proposa qu'il fasse une courte halte pour se payer un petit coup. Fitch fut d'abord séduit par cette idée, car il avait le gosier atrocement sec, mais il ne se laissa pas tenter.
« Non, je ne voudrais pas finir pendu à cause d'une chope de bière. Nous avons assez d'argent pour nous offrir à boire plus tard. Je ne veux pas rester une seconde de plus que nécessaire. »
Morlaix acquiesça à contre-cœur. Ils sortirent sur les quais et descendirent les marches que Claudine avait gravies quand elle pensait venir retrouver le directeur Linscott. Si elle les avait écoutés ce jour-là, bien des malheurs auraient été évités.
« On ne va pas chercher nos affaires ?»
demanda Morlaix. Fitch se retourna et dévisagea son ami.
« Tu possèdes quelque chose d'assez précieux pour risquer ta vie ?»«
Non, à part un joli petit jeu de jonchée que mon père m'avait offert, et quelques vêtements, mais cet uniforme est bien plus beau que mes frusques, y compris celles que je mets pour les réunions de repentance. »
Les réunions de repentance. Au moins, il n'aurait plus jamais à supporter ça.
Je n'ai rien à aller chercher non plus. Il doit me rester quelques pièces de cuivre, mais c'est du toc comparé à notre trésor de guerre. Nous devrions aller à Fairfield et acheter des chevaux.
Tu sais monter ?
Demanda Morlaix, dubitatif. Fitch sonda les environs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de garde. Puis il flanqua à son compagnon une amicale bourrade.
Non, mais je parie que nous apprendrons vite.
Alors qu'ils s'éloignaient, les deux Haken se retournèrent pour jeter un dernier regard sur le domaine.
« Je suis content de m'en aller, » dit Morlaix, « surtout après ce qui est arrivé aujourd'hui aux cuisines. »«
Que veux-tu dire ? Tu n'en as pas entendu parler ?
De quoi ?
Tu sais, j'ai passé la journée en ville à livrer des messages. »
Morlaix prit le bras de son ami et le força à s'arrêter.
« Il y a eu un incendie. »
« Où ?
Dans la cuisine, les fours et la cheminée, un vrai délire. »
« Comment ça, un délire ?»
Morlaix émit un profond bruit de gorge pour imiter le rugissement d'un feu, puis il écarta les bras et les agita frénétiquement.
« Il y avait des flammes partout. Le pain a brûlé et un chaudron a éclaté tellement il faisait chaud. »«
Sans blague !»
s'écria Fitch.
« Il y a eu des blessés ?»
Morlaix eut un rictus mauvais.
« Gilly a été salement brûlée. »
Il tapa du coude dans les côtes de Fitch.
« Elle s'occupait de ses sauces quand le feu est devenu fou. » Ses cheveux ont pris feu et sa sale gueule d'andérienne aussi.
Morlaix éclata de rire comme s'il attendait ça depuis des années.
Elle ne survivra pas d'après les guérisseurs, mais avant de crever, tu peux me croire, elle dégustera sacrément.
Fitch ne partagea pas l'enthousiasme de son ami. Même s'il n'avait aucune sympathie pour Gilly, ce n'était pas une raison pour se réjouir de ses malheurs.
Morlaix, tu ne devrais pas être content qu'une andérienne souffre. Ça montre que nous restons des barbares à Ken.
Morlaix se contenta de ricaner. Ils continuèrent à marcher vers la ville, se dissimulant dans les champs dès qu'ils entendaient les grincements des roues d'un carrosse ou d'un chariot. À chaque fois, ils attendirent un long moment avant de sortir de leur cachette. Bizarrement, Fitch trouvait cette expérience assez amusante. Loin du domaine, il avait moins peur d'être capturé, pendant la nuit en tout cas.
« Morlaix, je crois qu'on devrait voyager après le coucher du soleil et se cacher durant la journée.
Au début en tout cas. »
Il faudrait trouver des endroits sûrs d'où nous pourrions voir arriver nos poursuivants. Si nous chevauchons de nuit, personne ne nous verra. Ou au moins, on ne nous reconnaîtra pas.
Et si on nous tombe dessus pendant notre sommeil ?
Nous monterons la garde à tour de rôle, comme des soldats en campagne.
Oh, je n'aurais pas pensé à ça !
Souffla Morlaix, émerveillé par la vivacité d'esprit de son compagnon. Ils ralentirent le pas dès qu'ils furent dans Fairfield, toujours avec l'idée de ne pas se faire remarquer. Ici, il savait où se dissimuler en cas de danger, aussi efficacement que dans les champs sur la route du domaine.
« Nous allons acheter des chevaux, » dit Fitch, « et partir dès ce soir. »«
D'accord, mais comment sortirons-nous d'Anderith ? Messire Campbell nous a dit de trouver un pays où les gens se ficheront que nous soyons des Haken. Mais à la frontière, il y a les sentinelles qui montent la garde près des Domini Dirch.
Nous sommes des messagers, mon vieux, au cas où tu l'aurais oublié. »
« Et alors ? Il suffira de prétendre que nous sommes en mission ? Hors des frontières du pays ?»
Fitch réfléchit à cette question.
« Qui pourrait nous contredire ? Si nous parlons d'une mission urgente, personne ne prendra le risque de nous retarder pour demander confirmation au domaine. Ça demanderait trop de temps.
Et si quelqu'un veut voir le message ?
Un courrier ne montre pas les plis secrets à n'importe qui. Il suffira de dire qu'il s'agit d'un secret d'État et que nous ne pouvons même pas révéler où nous allons.
Je crois que ça marchera. Mon vieux, on va s'en tirer.
Bien sûr. Tu en as jamais douté ?
Morley tira sur la manche de Fitch qui s'arrêta de marcher.
Mais où irons-nous ? Tu as une idée ?
Le jeune Haken se contenta de sourire.